France Inter.
La journaliste au Monde et auteure Ariane Chemin a notamment publié La promo Sciences Po 86 sur son expérience personnelle, avec Raphaël Baquet, La femme fatale, une enquête sur la campagne présidentielle de Ségolène Royal, Les Strauss-Kahn et La communauté, avec François Krug, avec lequel elle a dévoilé l'affaire Benalla dans Le Monde, la bande dessinée Benalla et moi, avec Marie-France Etchegouin, Raoult, Une folie française, avec Vanessa Schneider, l'enquête sur Patrick Buisson, Le mauvais génie, et seul, des textes plus littéraires comme Mariage en douce sur Jean Seberg et Romain Gary en Corse en 63, à la recherche de Milan Kundera sur la vie de l'écrivain de Prague à Paris. Et je signale aussi son enquête sur un suicide collectif familial, Ne réveille pas les enfants. Le réalisateur de documentaire Yves Geland a aussi bien montré les coulisses de la politique avec Paris à tout prix, sur la conquête de la mairie de Paris par Bertrand Delanoë, Le siècle des socialistes, Un temps de président, Mendès la France, que l'histoire sociale dans Bleu, Blanc, Rose, qui retrace 30 années de vie homosexuelle en France, où Marie M.A.R.I.S. à tout prix. Il a aussi consacré de nombreux documentaires à des figures artistiques comme Piccoli, Gabin, Chaplin ou Trintignant, et de nombreuses figures musicales dans Il est minuit, Paris s'éveille. Ils viennent d'écrire ensemble avec Lisa Vapné le documentaire Zelensky, réalisé par les deux derniers, un portrait sensible du président ukrainien en deux parties, visible sur arte.tv. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Ariane Chemin et Yves Geland, bonsoir.
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 Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé? C'est la question obligatoire pour débuter cet entretien, Yves Geland.
Moi qui écoute régulièrement l'émission, j'aurais dû m'y préparer. C'est vraiment... J'étais toute la journée dans une salle de montage et... La chose qui m'a enthousiasmé, ça doit être le rire et les larmes d'une fille que j'ai filmée en 2014 et que j'ai continué à filmer en 2024. Une ancienne élève du Conservatoire d'art dramatique de Paris, une élève comédienne qui n'est plus élève, qui est comédienne. Et donc voilà, c'est ce que j'ai déroché aujourd'hui et de retrouver, le rire et les yeux et les larmes de Salomé Dienis Mélien, puisqu'il s'agit d'elle, au milieu de beaucoup d'autres, de sa promotion du Conservatoire d'art dramatique de Paris. Oui, je peux dire que ça m'a enthousiasmé.
Ariane Chemin.
Je rentre de l'Alta Rocca, qui est une région du sud de la Corse, et j'ai admiré les aiguilles de Bavel, j'ai entendu parler corse, je me suis plongée dans l'histoire du petit temple d'un village qui s'appelle Olen, sans doute le seul temple protestant de Corse, et j'ai visité aussi des tas de villages, et je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée sur les monuments aux morts, j'avais oublié qu'il y avait autant de morts et autant de Corses qui avaient fait la Première et la Seconde Guerre mondiale, et ça m'a frappée.
Tout à l'heure, vous avez dit le mot protestant. Justement, vous êtes issu d'une mère galloise. Votre grand-père était pasteur. Vos parents sont protestants, comme vous. Et il vous arrive de vous dire que vous avez une façon de faire ou de penser qui peut être très protestante. Par exemple, la méfiance des pouvoirs et des hiérarchies verticales.
Oui, c'est vrai. Je préfère l'horizontale, on va dire. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été passionnée par l'histoire de ce temple d'Olen, parce que dans cette île qui est plus catholique que chrétienne, d'ailleurs, je pense, la Corse, et bien, tout d'un coup, cette incongruité m'a fascinée.
Yves Geland, vous dites que vous n'auriez pas pu être journaliste puisque c'est un métier qui nécessite d'être trop rapide et vous vous considérez comme lent et besogneux, ce sont vos mots évidemment.
Oui, je pourrais même rajouter laborieux. Quand je filmais des journalistes et notamment les journalistes du Monde, c'est comme ça que j'ai vraiment rencontré Ariane. J'étais toujours attiré par les pages froides plutôt que les pages chaudes. Alors les pages froides, c'est celles qu'on peut découper, garder, relire, celles qui nécessitent plus de temps, et on accorde plus de temps aux journalistes, et en général plutôt aux grands reporters, pour écrire ces pages-là. Et c'est d'ailleurs ce que faisait à l'époque et que fait toujours Ariane, et c'est d'ailleurs ces pages froides qui nous ont réunis, on en parlera peut-être, qui étaient à l'origine du film qu'on a fait ensemble. Et j'ai toujours considéré que ces pages froides étaient toujours beaucoup plus chaudes, c'est-à-dire beaucoup plus incarnées que les pages froides.
Mais je savais pas que tu avais dit ça, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il est au contraire une qualité essentielle des journalistes, c'est que j'ai rarement vu quelqu'un d'une précision et d'une exactitude comme lui. Il n'a jamais passé la moindre inexactitude, il vérifie 10 fois, il a des carnets où il note tout de manière méticuleuse, c'est quand même une bonne qualité.
Bien sûr, mais ça prend du temps, évidemment.
Je suis incapable de rendre ma copie à temps, mais c'était déjà ça à l'école.
Ouais, voilà. Ouais, je suis un peu dans votre équipe, hélas.
Moi aussi.
Bon, bah écoutez, nous voilà rassurés. Ariane Chemin, vous dites, d'Yves Geland, que personne ne capte mieux que lui le théâtre des vanités. Et c'est drôle parce qu'il a fait le conservatoire, il aurait voulu faire du théâtre et il est passionné autant par le théâtre que par le théâtre des politiques.
Moi, mon film préféré d'Yves, c'est ce film où il filme Georges Frêche, le président. Et d'une certaine manière, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que la vanité, elle est peut-être pas seulement chez Georges Frêche, mais chez la cour. Dans la cour qui l'entoure. Et là, ce petit théâtre de gens qui lui cirent les pompes, qui lui font des salamalecs, et qui, dès qu'il a le dos tourné, ne tiennent pas le même discours, je trouve que c'est formidablement capté.
Yves Geland, quand vous êtes... parce que vous avez essayé de vous engager en politique à Strasbourg.
À côté de Strasbourg, oui. J'avais oublié que vous avez des dossiers dans cette
émission. Bien sûr, aux élections cantonales en Alsace en tant que candidat PS.
L'avantage, c'est que quand je filmais les politiques, il n'y avait pas des moteurs de recherche à l'époque et personne ne savait, quand je tenais ma petite caméra, que j'avais moi-même été candidat aux élections. J'étais très jeune quand même à l'époque. Enfin, j'étais candidat, oui, à côté de Strasbourg. J'avais vécu 3 ans à Strasbourg, tout en étant d'origine languedocienne. Et oui, c'était à Rosheim exactement. Allons-y maintenant, faisant le coming out jusqu'au bout. J'étais oui candidat soutenu par les Verts et le Parti socialiste. Et j'étais au Parti socialiste à l'époque. Oui, c'était donc à la fin du XXe siècle, en 1994. Voilà. Juste à quelques kilomètres de Strasbourg.
L'année suivante, vous étiez à Paris et vous avez fait des petits boulots, notamment à France Inter.
Oui.
Qu'est-ce que vous faisiez à France Inter ?
J'étais assistant d'une émission qui devait passer, à 18h ou à 17h. C'était la dernière année de Daniel Chic à France Inter. Et donc j'étais assistant d'émission, il y avait un stagiaire qui s'appelait Lucas Manger, que j'ai retrouvé d'ailleurs, qui aujourd'hui tourne également en Ukraine. Et on avait fait aussi une grille d'été, qui était une émission de la grille d'été, où on se baladait un peu partout. Grille d'été, on allait à Avignon, on allait partout dans des festivals. Donc oui, j'ai fait ça pendant un an, à mi-temps.
Voilà. Ariane Chemin, qu'auriez-vous aimé être en dehors de journaliste et auteur ?
En fait, le journalisme, c'est bien, c'est que c'est un métier, mais c'est des métiers. Et ça, on se renouvelle tout le temps. Et là, par exemple, moi qui avais plutôt l'habitude, d'observer la scène nationale, de temps en temps internationale, mais très rarement, j'ai découvert ce que c'était que le journalisme d'équipe, un pays en guerre, la diplomatie. Et je trouve qu'en fait, c'est pas le même métier. Donc en fait, le journaliste, ça va très bien, mais je peux l'exercer différemment et ça me plaît.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
J'aimais beaucoup le rock'n'roll et très franchement, sur cette photo, on le devine à ma coupe de cheveux. Si vous regardez bien, vous vous souvenez à quoi ressemblaient les amateurs de twist et de rock'n'roll. Ils avaient ce genre de coiffure. À l'époque, ce n'était pas très à la mode. Dans les années 90, c'était davantage la musique pop. C'est le président ukrainien Zelensky qu'on entend. C'est l'un des rares à ne pas être doublé dans votre documentaire Ariane Chemin et Yves Geland. On entend donc évidemment un extrait et j'ai l'impression que ce documentaire part d'une série d'articles Ariane Chemin de 2023, une série de 5 articles chronologiques sur le président ukrainien.
Oui, j'avais l'impression qu'on ne savait pas très bien qui c'était, surtout c'est sa date de naissance qui me fascine, 1978, le même âge que Emmanuel Macron, et on disait toujours c'est le premier président ukrainien qui n'a pas connu l'Union soviétique, de l'ère post-soviétique, et en calculant quand même il avait 13 ans lors de la chute de l'URSS, et 13 ans c'est pas rien quoi, c'était au moment d'ailleurs où il devait rentrer chez les Komsomols, il quittait les pionniers et on lui a posé la question, est-ce que vous étiez triste ou pas de ne pas rentrer chez les Komsomols? On a compris que non. Mais voilà, donc l'idée c'était de refaire cette vie incroyable, petit garçon soviétique, ensuite personne très connue qui vit 3 ans à Moscou, on ne le savait pas au tout début des années 2000. Ensuite, cette histoire incroyable qui ressemble au Long de la Rose, où sa série devient en fait la matrice de sa candidature à la présidentielle, et puis après, lui président et lui chef de guerre.
Alors, et puis on voit évidemment, ce qui frappe le plus, c'est qu'on le voit plaisanter, faire des cabrioles, danser, lire sur des toilettes, être incroyablement gay, enfin des images qu'on ne verrait d'aucun président dans le monde normalement. Et puis après, on le voit dans la seconde partie, quand il y a l'invasion de l'Ukraine à grande échelle en 2022, parce que je le rappelle pour les auditeurs, la guerre en Ukraine a commencé en 2014 avec l'annexion russe de la Crimée suivie par la guerre au Donbass. Et 2014, c'est l'année où vous, Yves Geland, vous avez sorti le documentaire « Les gens du monde », une immersion de plusieurs semaines dans la rédaction du journal, et dans laquelle on vous voit, Ariane Chemin. Est-ce que c'est là que vous vous êtes rencontrés ?
Oui, le film est sorti en 2014, et le tournage avait eu lieu en 2012, pendant la campagne présidentielle. Et c'est-à-dire plusieurs mois d'immersion à la rédaction du service politique du Monde, et il y avait plusieurs protagonistes, j'allais dire plusieurs interprètes du réel, puisqu'après tout, on filme aussi avec des interprètes dans le documentaire. Il y avait Ariane Chemin, il y avait Raphaël Baquet, Thomas Vider, David Revaud-Allonne, Caroline Monod, enfin beaucoup d'autres encore. Et ça a été, oui, une formidable expérience. C'est vraiment là, moi je lisais déjà les papiers d'Ariane Chemin, mais voilà, donc... c'était pas toujours facile de filmer Ariane, elle se dérobait parfois un petit peu, il fallait courir après.
J'étais très désagréable, m'a dit Yves.
Mais j'étais même pas du tout désagréable, mais un peu fuyante. Et bon, voilà, ça nous a pas empêché de nous retrouver et de réaliser ce film aujourd'hui.
Ariane Chemin, est-ce que c'est vrai que vous l'avez convaincu grâce à Chaplin, puisque Yves Geland, vous avez réalisé un documentaire sur Chaplin, et c'est l'une des figures préférées de Zelensky?
Alors, je ne sais pas si j'ai convaincu comme ça, mais ça me paraissait une évidence que Yves était l'homme qu'il fallait pour filmer Zelensky, parce que d'abord, j'aime sa façon effectivement de filmer la politique de manière intime. Ensuite, c'est vrai que c'était l'argument un peu fastoche, je reconnais, peut-être que c'est ça qui l'a convaincu. Je dis, mais enfin, quand même, il adore Chaplin comme toi, et on ne savait pas encore qu'il avait gagné danse avec, que Zelensky avait gagné Danse avec les Stars en dansant et en chantant du Chaplin, mais je ne sais pas si c'est ça qui l'a convaincu, mais c'est vrai que je lui ai fait une déclaration d'admiration. Donc voilà, il a pas été sensible tout de suite, il a réfléchi. Et puis...
Non, mais oui, elle m'a même parlé aussi de Georges Frêche. Alors, pour le coup, on pouvait essayer d'aborder Zelensky avec Chaplin. Je ne suis pas sûr que Zelensky connaisse bien Georges Frêche, mais ce qui est sûr, c'est que cet homme-là est... D'abord, c'est difficile de dire non à Ariane. Et ensuite, elle m'a présenté aussi la productrice Guylaine Chenu. C'était encore très difficile de dire non. Et puis Zelensky, il incarne, il réunit mes deux passions d'enfance, qui sont toujours les passions que j'explore dans mes films, à savoir la politique, le pouvoir et les artistes, qu'ils soient réalisateurs, chanteurs ou acteurs.
Et c'est vrai que Guylaine, en bonne journaliste tenace qu'elle est, on n'était pas sûr que Zelensky accepterait de nous parler. Elle savait qu'il nous fallait Zelensky, elle nous a beaucoup aidés.
Et alors justement, on voit évidemment beaucoup plus ses proches, ses amis d'enfance, de comédie dont certains l'ont suivi en politique. Mais on voit Zelensky, il vous a donné son accord lors de votre 3e séjour en Ukraine. C'était fin août 2024, des bombardements venaient de toucher plusieurs infrastructures énergétiques. Comment ça s'est fait ? Parce qu'on entend même à un moment, pendant que vous interviewez quelqu'un, une alarme pour aller se mettre en sécurité dans un bunker.
Oui, on logeait à l'hôtel Ukraine, qui est tout proche de la présidence, de la rue Bankova, qui est un immense hôtel mythique, puisque c'est sur la place Maïdan, et c'est là qui a été le théâtre des opérations en 2014. Et en fait, les rendez-vous, c'est normal dans un pays en guerre, ça se prend toujours de la veille au lendemain, et encore... C'est une bonne option. Et donc, le matin, il nous a dit, vous pouvez venir. Ils ont dit ça à Guylaine. Et là, c'était vraiment pas de combat, parce qu'on avait quand même pas mal d'installations. Puis, il y a un dispositif de sécurité assez important. Ce qui nous a frappé, on le voit dans le film, c'est qu'il laisse son portable à l'entrée, au début de l'interview, et il le reprend une heure et demie plus tard.
Oui, la première fois, ça a même été annulé. Ça devait être un mercredi, ça a été le vendredi. On a retardé notre départ. Ça n'a pas été une mince affaire, hein. C'est pas évident. Évidemment, il donne pas tant d'entretiens que ça. Et surtout, des entretiens en longueur, comme ça a été le cas pour nous, où il parle de tout à fait autre chose. Et là, c'est presque... J'ai utilisé un terme journalistique en parlant d'exclusivité, mais en tout cas, c'est rare. C'est rare que... Et nous-mêmes, on marchait un peu sur des œufs en se disant, bon, il faut qu'il accepte que de parler d'autre chose que de la guerre et de l'actualité, même si la guerre est très présente. Et Ariane a raison quand elle parle de cette image de laissant son téléphone et récupérant à la fin, parce qu'on a vraiment eu l'impression d'un temps suspendu, où il disait, d'ailleurs la première parole qu'il dit, ah je vais me reposer un peu, et il décide de parler d'autre chose, de son passé, et surtout on va lui montrer des images qu'il n'a pas vues depuis longtemps, ou parfois qu'il n'a jamais vues, ou des entretiens qu'on avait pu mener dès le mois de février 2024 avec ses enseignantes et les institutrices de l'école 95, avec des photos de classe, avec d'autres images qui, je pense, le fait de savoir qu'on avait passé 3 semaines en plein hiver à Krivirig, la ville où il est né, cette ville, cette cité minière, qu'on avait retrouvé la tombe de ses grands-parents, et je pense qu'il s'est dit, tiens, c'est un peu différent de d'habitude, et il nous a accordé, je crois, sa confiance.
C'est vrai que quand on voit cette cité minière, on est déjà étonné, puisqu'on ne s'attend pas du tout à ce qu'il vienne de là.
Non, c'est vraiment une grande ville industrielle de l'Est, dont le grand boulevard des métallos mesure plus de 100 kilomètres. C'est triste, c'est gris, c'est à la fois noir et rose, parce qu'il y a des sortes de lacs artificiels. Et puis ça continue à être une ville d'extraction, quoi. Donc des petites maisons de mineurs. Et d'ailleurs, son meilleur ami ou quelqu'un le dit dans le film, quand on vient de là, on a le cuir épais.
Non, on a du mal à s'imaginer. J'ai dit une fois... On dit Charleville-Mézières, c'est la Côte d'Azur à côté. C'est deux fois Los Angeles en étendue. Alors ils sont très fiers, parce que quand on dit qu'on vient de France ou de Paris, ils vous disent, ah bon, mais vous savez que le fer de la Tour Eiffel vient de chez nous, il vient de Krivirig, on disait Krivoy Rog à l'époque soviétique. Mais c'est vrai que c'est une ville de rouille et d'acier, où le ciel est bas. Et ensuite, on y a été, nous, encore une fois, en pleine guerre, et donc l'image de la ville est porteur des couleurs de la guerre aussi.
Ce qui ressort de ce portrait, c'est le courage de Zelensky, et dans vos biographies respectives, Ariane Chemin et Yves Jelan, on a d'un côté pour vous Ariane Chemin, une grand-mère qui a hébergé une femme juive avec son petit garçon, et de votre côté Yves Jelan, des parents très engagés qui ont hébergé pendant plusieurs années un adolescent réfugié du sud-est asiatique. Est-ce que pour vous, la bravoure, ça va de soi ?
C'est incroyable que vous disiez ça. Le courage, c'est une vertu admirable, je trouve, et un peu oubliée, puisque comme on vivait à la fin du XXe siècle, on disait les guerres, c'est derrière nous, c'est la fin de l'histoire. C'était vraiment, je me souviens encore de l'émission de Pivot qui était intitulée comme ça. Donc le courage avait un peu disparu de nos valeurs, quoi. Et je trouve qu'on le redécouvre avec Zelensky. C'était le courage aussi de Romain Gary, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de figures comme ça qu'on peut admirer.
Yves Jelan.
Moi, j'ai pas vécu en temps de guerre, donc non, j'ai juste la mémoire peut-être de mes grands-parents, mais encore plus que mes parents, et de ce qu'ils ont pu traverser à ce moment-là. Je sais pas s'il y a un héritage ou pas. En tout cas, je pense pas que être courageux pour moi, c'était, à part un tournage que j'avais fait en novembre 2003 en Israël et Palestine en pleine intifada, je n'ai pas trop. J'ai pas l'habitude des terrains de guerre, et encore une fois, n'étais pas non plus sur le front, là où parfois peuvent aller les journalistes du Monde, dont Ariane. Même si on a vécu des bombardements, et qu'il peut y avoir aussi des bombardements, et on a vu et des morts à Kiev et à Krivirig, j'ai pas l'impression d'avoir fait acte d'héroïsme en tournant ce film.
J'espère qu'on aura le temps d'en passer un extrait à la fin de l'émission.
Les années passent, on change de siècle. Les petits gars de Krivirig sont désormais plus souvent à Moscou que dans leur ville natale. La renommée du Kvartal grandit, le nationalisme russe aussi. Le Kremlin vient de se doter d'un nouveau résident.
За любовь и мир в каждом нашем доме. С Новым годом вас. С новым веком.
Levons nos verres à l'amour et à la paix dans chaque foyer. Bonne année. Bon siècle, et qui dit ça ? Vladimir Poutine. Ça paraît surréaliste, non ? C'est un extrait de votre documentaire sur Zelensky, Ariane Chemin, Yves Jelan.
Oui, il y a l'effet ahistorique, c'est vrai, qui est très fort, parce que il y a plusieurs séquences dans le film où on croit rêver. En 2014, quand Zelensky dit « Je vous le demande à genoux, Monsieur Poutine, laissez-nous tranquilles », ou effectivement, cette phrase de Poutine, elle est intéressante parce qu'elle résonne, évidemment, avec l'actualité. C'est assez incroyable.
C'est la seule fois où on voit Poutine dans le film. On voulait vraiment pas faire un film, un match Zelensky-Poutine. On voit beaucoup ça à la télévision. Vraiment, voilà, on voulait avoir ni la tête de Poutine, ni la tête de Trump. Donc on voit Poutine, il y a 25 ans seulement, et encore avec derrière l'isiaphone, j'allais dire, c'est-à-dire derrière l'écran d'un poste de télévision.
On voit en tout cas beaucoup Zelensky dans des images d'archives et dans l'interview qu'il vous a accordée. On voit la troupe de comédiens qui l'entoure, on voit les changements politiques. Parce que ce que j'ignorais avant de voir votre documentaire, c'est qu'au début, il voulait réussir à Moscou.
Il voulait réussir à Moscou et il y a une chose aussi intéressante, c'est que quand il avait 17-18 ans, il voulait même faire la grande école de diplomatie, la MGIMO de Moscou. Et ça m'a frappé récemment quand je le vois en diplomate, en train de discuter dans le bureau ovale. En fait, il voulait être diplomate quand il avait 17-18 ans. Puis son père a dit non. Et en fait, il est devenu effectivement le meneur d'une troupe qui ressemblerait à un mix entre le Jamel Comedy Club et le Splendid, je sais pas comment le dire.
Oui, le SNL et, aussi.
Exactement. Et il passe beaucoup de temps à Moscou.
Et alors, son père lui a souvent dit non, d'ailleurs.
Oui.
Et il voulait partir en Israël, et son père lui a dit non également.
Et sa mère lui a dit non aussi quand il a voulu se présenter comme président.
C'est vrai.
Oui, mais là, il ne l'a pas écouté.
Non, heureusement. Alors, sa vie, c'est autant un parcours initiatique que romanesque. Il fait enfin un premier sketch politique où il a besoin d'un conseiller en communication. Et là, il a un conseiller qui arrive, qui lui dit « On va rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. » Et Zelensky jouit comme un homme avec une prostituée, pendant que le type fait des promesses de campagne. C'est quand même sidérant de voir tout ce qui résonne par la suite, et qu'il faisait en blague potache à l'époque.
Oui, en plus on les a oubliées ces images-là. Ça, c'est vraiment le travail de Lisa Vapney, qui est russophone, et qui a retrouvé des sketchs, des images, et des choses finalement plus politiques qu'on ne pensait. Hein. Et notamment parfois, il a d'ailleurs agacé les présidents ukrainiens. Yanukovych, qui était président en 2014, il a convoqué plusieurs fois Zelensky, l'humoriste, pour lui dire « ça suffit maintenant ». Et effectivement, l'Europe, ça reste un rêve. C'est celui aussi le sketch de la bicyclette, où l'Europe est magnifiée.
Il est aussi Napoléon qui envahit la Russie.
Ah oui, c'est vrai. Oui, ça, on était contents qu'on ait tombé là-dessus.
C'est
oui,
incroyable.
Oui. Ah oui. Ça, c'est... Alors, on citait tout à l'heure le Jamel Comedy Club comme référence où on aurait pu, pour les shows du samedi soir, c'est un humour plus proche de celui de Patrick Sébastien aussi, il faut le dire. Parfois, c'est les inconnus, mais là, pour ce qui est du film, alors là c'est un film qui est sorti au cinéma, une coproduction russe, c'est un film là qui se rapprocherait davantage des Monty Python, qui est aussi une référence de Zelensky. Il aime beaucoup les Monty Python, ou Monty Python.
On ne peut pas lui reprocher.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Yves Jelan, Ariane Chemin, on continue d'évoquer votre documentaire Zelensky, disponible sur arte.tv. Dedans, on découvre qu'il fait de la scène pendant 15 ans sans prendre parti. Arrive novembre 2013, la foule s'empare en Ukraine d'Independence Square. Un mouvement de révolte et d'émeute se dresse contre le président Yanukovych qui a tourné le dos à l'Europe contre l'avis de la population. Ce soir-là, Zelensky est à une première de comédie romantique à Moscou. On tire sur les manifestants, une centaine de morts. Février 2014, je fais un bref résumé, le président fuit en Russie. 1er mars 2014, Zelensky apparaît dans une émission d'actualité, pas de blague, pour la première fois.
Nous sommes en février 2014 et l'histoire s'accélère. Le président déguerpit et trouve refuge en Russie. La révolution triomphe, mais le Kremlin menace. Alors, pour la première fois, Zelensky sort de sa réserve. Le 1er mars 2014, il s'invite sur le plateau du journal télévisé. L'acteur n'est plus là pour rire.
La voix française est celle de Mathieu Amalric. Ensuite, on entend le président Zelensky qui dit à Poutine qu'il est prêt à s'agenouiller pour sauver son peuple. Il le dit en russe, sa langue maternelle, avec un t-shirt Mohamed Ali. Et il dit « Il faudrait laisser les gens parler la langue qu'ils veulent. J'ai du sang juif, je parle russe, mais je suis ukrainien. » Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on découvre, enfin pour certains d'entre nous dans votre documentaire, Ariane Chemin, Yves Jelan, c'est que le russe est sa langue maternelle et il apprend l'ukrainien pour se présenter au présidentiel, et il l'apprend avec une méthode un peu particulière.
Oui, on a, c'est Lisa qui a, Vapné, qui a co-réalisé le film, qui a retrouvé aussi cette archive, qui faisait partie, en fait, de la campagne électorale. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un handicap formidable que de se dire, cet homme qui va être président de l'Ukraine ne parle pas bien l'ukrainien. Il l'a appris à Kryvyi Rih, on a montré, on a interviewé ses institutrices qui lui ont appris l'ukrainien. Mais de fait, dans la vie courante, il a toujours parlé russe, avec, dans sa famille, avec ses parents, avec ses enfants, avec sa femme. Et donc, l'ukrainien, il le maîtrise. Pas du tout. Et donc, il essaie d'en faire un sketch, et c'est d'ailleurs une part de son humour juif, d'en faire de l'autodérision, et de montrer que, ben, on lui reproche ça, et donc il va l'apprendre, et il va faire des séances de... C'est un peu la tête et les jambes, c'est-à-dire que il, chaque fois qu'on lui donne un mot, soit... thème, soit version, c'est-à-dire soit un mot ukrainien qui doit traduire en russe, soit l'inverse. S'il trouve pas, il doit faire deux tractions. Et ça a été filmé dans une salle de sport. Et c'est Yuri Kostyuk, qui est d'ailleurs le scénariste de cette série dont on a un peu parlé et qui va devenir aujourd'hui, et qui est aujourd'hui la plume du président, qui lui parle très bien l'ukrainien et qui le met à l'épreuve comme ça. Et donc on voit Zelensky qui commence à faire pousser un peu sa musculature. Et donc voilà, ça c'est... Mais c'est c'est quelques semaines avant le premier tour de la présidentielle.
Et là, il est dur de croire qu'il a évité le service militaire et qu'il ne supporte pas la vue du sang. Et en 2014, il va soutenir les soldats ukrainiens dans le Donbass. Et là, je crois qu'il y a un déclic.
Oui, parce que ce qui est intéressant en 2014, c'est que Yanukovych fuit le pays, se réfugie à terme en Russie. Et il faut comprendre cela pour mesurer combien... Lorsqu'en 2022, Zelensky et sa garde rapprochée décident de rester, c'est en référence à ça. Moi, je ne pars pas.
Voilà. Et alors que la majorité de ses revenus viennent de Russie.
Exactement. Et sa majorité de ses revenus viennent de Russie. Et là, il y a un déclic, effectivement. Quand il dit « je suis ukrainien, je suis juif, je parle le russe », c'est l'inverse exact de ce fameux « homo soviéticus », qui est une expression consacrée dans tout l'espace post-soviétique. Il ne veut pas être celui-là. Il déteste l'armée parce que pour lui, c'est l'armée rouge. Et il se débrouille avec ses copains pour dire qu'il n'a pas reçu la convocation et pour ne pas faire son service militaire.
Il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il fait donc une série qui s'appelle Serviteur du peuple, et ça va être le nom de son futur parti à Zelensky.
C'est vrai que quand on rencontre des députés aujourd'hui qui nous disent « je suis député, serviteur du peuple », ça fait un peu bizarre, parce que sachant que serviteur du peuple était une expression pour se moquer justement des dirigeants ukrainiens qui faisaient mal le job et qui ne servaient pas du tout le peuple.
Non, mais c'est assez vertigineux. Mais de la même façon, il s'était amusé avec le nom de sa troupe, c'était le nom de son quartier. Donc, il y a c'est une sorte de, l'expression est malvenue, mais c'est une série de poupées russes, en fait, la vie de Zelensky.
Alors, en plus, la série, dedans, il campe un professeur d'histoire qui devient président. Et je crois que c'est vous, Yves Jolland, qui lui dites à un moment que vous avez regardé les 3 saisons de la série. Et il vous répond « Je suis désolée, si j'avais su que vous alliez les regarder, on n'aurait fait qu'une seule saison. » Il a l'air d'avoir beaucoup d'humour.
Oui, je dois reconnaître que, surtout dans les circonstances dans lesquelles on l'a filmé, on ne s'attendait pas à le voir aussi... souriant, parfois ému aussi, parfois également les larmes aux yeux, mais disons-le, charmant et charmeur, voilà. Donc, il a le sens de la répartie qu'il a appris au KVN, qu'il avait déjà à l'école quand il était à l'école 93 de Kryvyi Rih, et il l'a également forcément quand on lui pose des questions, il répond du tac au tac.
Mais le film a un effet prophylactique presque, parce que on lui dit mais quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez ri, et il n'ose pas répondre parce qu'il sait que voilà, il y a des morts partout, que tout le monde pleure en son pays, et il va réussir à le faire rire.
Oui, et il dit d'ailleurs, la dernière fois que j'ai ri, c'était à l'instant.
Absolument.
Et quand vous l'interrogez sur son judaïsme, il répond « Être juif n'arrive qu'en 20e position sur ma liste de défauts ».
Oui, ça, c'est pas nous qui l'a dit, mais on l'a récupéré...
À Bernard-Henri Lévy, l'a dit, je crois.
Oui, de notre entretien. Et en général, il ne parle pas si facilement de sa judéité. Il y a toujours cette expression qu'il utilise, lui, en 2014, qu'utilisent aussi ses camarades comédiens du Kvartal, que ce soit Olena Kravets ou Sacha Pikhalov, de dire « il a du sang juif ». C'est une expression qu'on dit encore là-bas et qu'on n'utilise pas trop encore aujourd'hui. Qu'on n'utilise plus trop, pardon, chez nous.
Ça, il reste assez soviétique d'ailleurs. Il parle pas de la Shoah par balle, c'est quand même le pays de la Shoah par balle, l'Ukraine. Il a quand même les frères de ses, de son grand-père qui sont morts. Et il y avait 9 synagogues à Kryvyi Rih avant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a plus qu'une qui vient d'être construite. Enfin, et en cela, il reste, oui, de sa jeune époque.
Et il devient le plus jeune président d'Ukraine à 41 ans. 73% du pays vote pour lui au second tour. Une question pour tous les deux, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en faisant ce documentaire à son sujet? Ou qu'aimeriez-vous que les gens ressentent, comprennent ou pensent en le regardant?
Moi je trouve qu'il y a une petite musique pro-russe qui est très prégnante, ça nous frappe, on en a beaucoup parlé avec Yves, il y a très souvent des gens qui connaissent pas et qui nous disent « Ah Zelensky, ah bon, je sais pas, je l'aime pas trop ce type », sans savoir, et en fait on se rend compte que la propagande, le soft power russe est très présent, moins en France qu'en Italie ou dans d'autres pays, mais quand même. Donc c'était essayer de raconter qui était vraiment Zelensky, et notre chance c'est que on le raconte à travers une bande de copains, mais c'est pas artificiel puisque sa bande de copains est devenue son entourage, donc ça a humanisé je pense le personnage.
Yves Jolland.
Non, ce qui m'a. Je pense que quand je lisais les articles du Monde en 2019, assurément, puisque vous avez dévoilé mon passé politique, je n'aurais pas voté pour Zelensky en 2019. J'aurais pas voté non plus pour Porochenko. Je ne sais pas pour qui j'aurais voté. Mais en 2022, il est de toute évidence à sa bonne place. Cet homme s'est révélé et nous, avec Lisa et Ariane, nous ne racontons rien d'autre que cette transformation et que le destin d'un homme qu'on voit évoluer. Il y a plusieurs dates importantes. Il y a évidemment 1991, l'indépendance. Il y a 2003 quand il revient en Ukraine. Il y a 2014. Il y a 2019 quand il est élu. Mais il y a bien sûr 2022, lorsqu'il se transforme en chef de guerre. Et avec cette aventure incroyable, qu'il n'est même pas... Souvent on dit que c'est un saltimbanque ou qui est devenu homme politique. Il n'est même pas devenu homme politique. Il est passé directement de la scène à la présidence.
Sur Facebook, en réagissant au film, il y a une jeune Ukrainienne très fine qui a dit, en regardant ce film, je sais pourquoi je riais pas à ces blagues télévisées, pourquoi je regardais pas ces shows, je sais pourquoi j'ai pas voté pour lui, et je sais pourquoi je suis contente qu'il soit aujourd'hui président de l'Ukraine.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime chanter la rengaine, la mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. « trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
Je vous ai demandé des choix musicaux et culturels. Yves Geland, vous avez choisi Yves Montand et je mets tout de suite un extrait qui explique pourquoi d'ailleurs.
Tu dois me poser une question.
Ouais.
Tu vas me répondre franchement.
Pourquoi oui. Vous appelez-vous Montand?
Quand j'étais jeune, ma mère m'appelait par la fenêtre et elle me criait « Ivo Montand !»
La première fois que vous vous êtes vu, qu'est-ce que vous vous êtes dit?
J'ai toujours eu l'impression que le personnage qui était sur scène, ça n'a jamais été moi.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez vous?
Autour de moi, je rends les gens pas très heureux.
Activité politique? Pas au sens classique.
Vous voyez ce que je veux dire?
Yves Geland, vous avez signé en 2021 avec Vincent Josse, mon confrère. Mon temps est à nous. On a passé comme standard ce soir trois petites notes de musique et vous dites que vous vous débrouillez toujours pour caser Carcassonne, Yves Montand ou les frères Jacques dans vos montages, même quand ça n'a rien à voir.
Oui, c'est un énorme échec avec Zelensky.
Oui, bah là, c'était pas facile.
C'était pas facile. Et puis, j'étais pas seul à signer le film non plus. Donc, oui, là, vraiment, j'ai un peu essayé, mais mon temps, c'était compliqué. Carcassonne, parfois, j'arrive vraiment en contournant, c'est comme une sorte de défi. Et ben voilà, il y a toujours des exceptions. Donc non, évidemment, après c'est un petit jeu. Il faut pas non plus que ça devienne ce que ça handicape le film. Mais Montand est pour moi oui comme une figure tutélaire. Et on parlait tout à l'heure de la politique et des artistes, lui à la fois acteur, chanteur. Et d'une certaine façon homme politique, il a même été question qu'il se présente à la présidentielle. Donc forcément, mais je pense que mon temps serait toujours vivant. Après tout, il n'a que à peine un peu plus de 100 ans.
C'est un âge biblique, tout à fait respectable.
Je pense qu'il s'il avait vécu jusqu'à 120 ans, on entendrait sa voix sur l'Ukraine et on entendrait gueuler au micro de France Inter, interviewé par Pierre Bouteiller.
Sans doute. Ariane Chemin, en parlant de musique, il paraît que vous êtes très ému quand il y a un pot de départ au monde et quand les gens se mettent à chanter la chanson mythique des typos. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chanson?
À la santé du confrère. Moi, j'ai pas chanté. Hein.
Non, d'accord.
Mais c'est
d'accord.
Vrai que ça me bouleverse parce que ça va tomber en désuétude. Et encore récemment, il y avait un pot de départ au journal et j'ai entendu toute la rédaction chanter ça à la santé du confrère. C'est la chanson de la CGT du livre.
Alors vous avez choisi comme découverte pour les auditeurs un photographe dont je vous laisse parler, un photographe ukrainien.
Alexandre Gliadelov, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois, qui est un grand photographe ukrainien, tradition Magnum, qui photographie en noir et blanc, qui a commencé à photographier son pays, l'Ukraine, après l'accident de Tchernobyl en 88, et qui photographie toutes les ex-républiques soviétiques qui sont aujourd'hui aux prises avec Moscou. Et il a fait notamment les photos du front, mais aussi de l'arrière, depuis 2022. Avant, il développait lui-même ses photos dans les bains à la main. Maintenant, c'est plus compliqué, donc il s'est mis à la modernité. Et Kiev va lui consacrer, grâce à un commissaire d'exposition qui s'appelle Oleg Sosnov, une grande exposition le 4 septembre. C'est un défi, évidemment, la plus grande salle de Kiev, une exposition avec 330 photos. C'est la première fois depuis l'indépendance de l'Ukraine qu'on consacre une exposition à un seul photographe comme ça. Et je suis émerveillée par ce défi, d'autant que j'adore ces photos.
Unter deine weiße Stern streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Wärter seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. Seh es dunkel, seh er finkel. In mein Keller dicken Blick und ich hab gar nicht kein Winkel sei zu schenken dir zurück und ich hab gar nicht kein Winkel sei zu schenken dir zurück.
Un autre de vos choix musicaux, Yves Geland, du compositeur justement de la musique de votre documentaire avec Ariane Chemin sur Zelensky, c'est Eric Slabiak, Unter deine weiße Stern. Pardon oui. Si mon accent yiddish n'est pas bon.
Il est presque parfait.
Mélancolie gay, comme vous.
Ah ouais, c'est gentil, Ariane Chemin.
Oui, c'est une chanson de Avrom Sutskever. Et donc interprété par Eric Slabiak dans le premier album du groupe Joseph Joseph.
Et avant, qui avait le groupe Les Yeux Noirs avant.
C'est ça. Avant Joseph Joseph, c'était Les Yeux Noirs. Et voilà, c'est un, un auteur yiddish, Avram Soutskever, qui a écrit, je crois, cette chanson dans le ghetto de Vilno.
Vous avez aussi fait le documentaire primé comme un juif en France dans la joie ou la douleur. Vous avez aussi fait La vie balagane de Marceline Laurie dans Ivance. Ce sont donc des sujets qui vous préoccupent. Ariane Chemin, vous dites dans une interview, l'une des choses dont je suis le plus fière, c'est d'avoir fait condamner deux fois le négationniste Robert Forisson. Vous avez quand même des combats en commun.
Bah écoutez, bon, en même temps, on ne va pas se transformer en héros. Et il a raison. Il a raison, Yves, tout à l'heure. C'est peut-être ça, les affinités électives, je ne sais pas.
Oui, peut-être. Et puis, je ne sais pas, porteur d'une histoire familiale aussi. On n'y échappe pas forcément tout le temps. Donc, on fait des films avec ce qu'on a dans son cabas. C'est Jean-Claude Grimbert qui disait ça à propos de ses livres, qu'on lui reprochait de se répéter. Donc, alors. Le journaliste, un devoir d'objectivité et le réalisateur documentaire, un devoir de subjectivité, mais d'une certaine façon, on se retrouve quand même.
Alors justement, Jean-Claude Grimbert a vu un de ses livres adapté par Michel Hazanavicius, si je ne me trompe pas. Et Yves Jelan, vous avez choisi Les carnets d'Ukraine de Michel Hazanavicius pour les auditeurs.
Oui, parce que Michel Hazanavicius
il a fait plus de films que de livres.
Exactement, et c'est un très très beau livre, et il a eu le courage et le temps de voir des héros du quotidien, même s'il a déjà, je sais, il en parle assez peu, rencontré plusieurs fois Zelensky. Là, c'est vraiment les héros du quotidien, et non seulement il leur rend hommage à travers ce livre, ces carnets d'Ukraine, mais également il les a dessinés, puisque vous parliez de la plus précieuse des marchandises, et c'est aussi le trait de crayon pour les personnages sont dessinés par Michel Hazanavicius, et l'avantage de ce livre, qui est chez Alary Éditions, c'est que les bénéfices vont à l'association dont Michel Hazanavicius est un des porte-parole, et l'association s'appelle United 24, United 24, voilà.
Ariane Chemin, il y a deux livres que vous adorez, j'aimerais bien que vous en disiez un petit mot. Il y en a un que vous aviez choisi quand je vous avais invité il y a des années dans Remède à la mélancolie, c'était Consolation à Marcia de Sénèque, et l'autre c'est Frank Sinatra a un rhume de Gay Talit.
Oui, alors les Consolations de Sénèque, écoutez, c'est d'actualité parce que c'est ça qui est terrible dans cette guerre, c'est qu'on se met à connaître des personnes qui y meurent. Voilà, donc c'est un petit livre que j'aimais bien offrir, qu'on m'avait offert lors d'un deuil et que j'aime bien offrir. Et puis Gay Talese, c'est le nouveau journalisme, la non-fiction, et c'est vrai que c'est le genre qui me plaît. Hein, et j'aimerais bien essayer d'écrire une non-fiction sur une histoire ukrainienne.
D'ailleurs, il est publié, je crois, dans la même maison d'édition que vous, Édition du Sous-Sol.
Voilà. Et donc, j'aimerais bien faire, pour les Éditions du Sous-Sol, un récit ukrainien.
J'ai l'impression que vous allez le faire, parce que ça fait deux fois que vous le dites. Je soupçonne de le faire. Il nous reste encore un petit peu de temps pour une recommandation. Un film également disponible sur Arte.tv jusqu'au 26 septembre prochain. Yves Jelan, Le chagrin et la pitié de Marcel Ofuls, qui vient de mourir.
Oui, Marcel Ofuls est mort, lui aussi, il aurait pu vivre jusqu'à 120 ans. Il avait 97 ou 98 ans, et j'ai eu la chance d'être en relation avec lui à deux reprises, à la fois pour Mendès la France et pour Comme un juif en France, puisque dans ces deux documentaires que j'ai réalisés, l'un en 2007, l'autre en 2022, il y avait des extraits du Chagrin et la pitié. Et pour avoir des extraits du Chagrin et la pitié, il faut forcément passer par Marcel Ofuls, ce qui n'est pas toujours très simple, mais on avait sympathisé à l'époque, en 2007. Il m'avait dit « Est-ce que vous avez Simone Veil dans votre film ?» J'ai dit non, et là je sentais que j'avais gagné parce que Simone Veil n'avait pas été tante pour Ofuls et faisait partie des personnes qui, au sein du conseil d'administration de l'ORTF, avaient interdit le film. Et donc, il avait toujours une dent contre elle. Et donc, en 2022, il m'avait proposé de terminer un de ses films. Il m'a dit, si jamais, dans le cas peu probable, où je casserai ma pipe avant vous, Yves, est-ce que vous seriez prêt pour terminer le film? Ça s'est finalement pas fait. Et c'était un homme fort caractère, mais avec un humour exceptionnel. Et donc, nos conversations ont eu lieu essentiellement par fax. Et d'ailleurs, certaines personnes un peu mal intentionnées l'appelaient Marcel Ofuls Fax au Fuls.
Merci beaucoup Yves Gelon. Merci
à vous.
Ariane Chemin.
Merci.
Votre documentaire Zelensky, co-réalisé avec Lisa Vapnet, est à retrouver sur la plateforme arte.tv. À signaler aussi Céline Villegas, dont vous entendez le nom à chaque fin d'émission, est finaliste du prix Photo Social 2025 et expose à la mairie du 10e arrondissement de Paris jusqu'au 25 juin si vous êtes dans les parages. Et dans le cas où vous feriez partie des 80% d'auditeurs s'en trouvant loin, vous pouvez voir son travail sur le site internet qui porte son nom. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Betty Algray et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Ronan Mahé.